Les marchandes de sable en compagnie de Hugo, fable de La Fontaine. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes. Lorsque le genre humain de gland se contentait, âne, cheval et mule aux forêts habitées. Et l'on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnois pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent avec un cerf plein de vitesse. Et ne pouvant l'attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos que le cerf ne fût pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme, son bienfaiteur, disant « Je suis à vous. Adieu, je m'en retourne dans mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, » dit l'homme. « Il fait meilleur chez nous. Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité. » Et jusqu'au ventre en la litière. Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté ? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie, mais il n'était plus temps. Déjà, son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut en traînant son lien. Sache s'il lui remit une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause de la vengeance, c'est l'acheter trop cher que l'acheter d'un bien sans qui les autres ne sont rien.
Le renard et le buste. Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne de tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fait dire fort à propos. C'était un buste creux et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, » dit-il. Mais de cervelle point. Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ?
Le loup, la chèvre et le chevreau. La bique allant remplir sa traînante mamelle et paître l'herbe nouvelle, ferma sa porte au loquet, non sans dire à son biquet : Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit. Pour enseigne et mot du guet, foin du loup et de sa race. Comme elle disait ces mots, le loup de fortune passe. Il les recueillait à propos et les garde dans sa mémoire. La bique, comme on peut le croire, n'avait pas vu le glouton. Dès qu'il la voit partir, il contrefait son ton, et d'une voix pas pelarde, il demande qu'on ouvre, en disant « foin du loup » et croyant entrer tout d'un coup. Et le bique est soupçonneux par la fente regarde. « Montrez-moi patte blanche, ou je n'ouvrirai point », s'écria-t-il d'abord. Patte blanche est un point chez les loups, comme on sait, rarement en usage. Celui-ci, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot du guet que de fortune notre loup avait entendu ? Deux sûretés valent mieux qu'une, et le trot en cela ne fut jamais perdu.
Le loup, la mère et l'enfant. Ce loup me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris. Il y périt. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messer loup attendait chape chute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiments de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace, s'il ne se tait, de le donner au loup. L'animal se tient prêt, remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons. »« Qu'est ceci ? » s'écria le mangeur de moutons. Dire d'un, puis d'un autre ? Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi ? Me prend-on pour un sot que quelques jours ce beau marmot ? Vienne au bois cueillir la noisette. Comme il disait ces mots, on sort de la maison. Un chien de cour l'arrête. Épieux et fourche fier, l'ajuste de toute manière. Que veniez-vous chercher en ce lieu, lui dit-on ? Aussitôt, il conta l'affaire. Merci de moi, lui dit la mère. Tu mangeras mon fils. L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ? On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit, et ce dicton picard à l'entour fut écrit « Bio chire le, n'écoutez mi, mère tanche champfieux qui crie. »
Parole de Socrate. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les deux dents, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui ! L'on y tournait à peine. Plus au ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose.
Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Écoutez là-dessus l'esclave de Phrygie. Si j'ajoute du mien à son invention, c'est pour peindre nos mœurs et non point par envie. Je suis trop au-dessous de cette ambition. Phèdre enchanterie souvent par un motif de gloire. Pour moi, de telles pensées me seraient malséantes. Mais venons à la fable, ou plutôt à l'histoire, de celui qui tâcha d'unir tous ses enfants. Un vieillard près d'aller où la mort l'appelait, « Mes chers enfants, dit-il à ses fils, il parlait, voyez, si vous romprez ces dards liés ensemble, je vous expliquerai le nœud qui les assemble. » L'aîné, les ayant pris et fait tous ses efforts, les rendit en disant, « Je le donne au plus fort. » Un second le succède et se met en posture. Mais en vain. Un cadet tente aussi l'aventure. Tous perdirent leur temps. Le faisceau résista. De ces dards joints ensemble, un seul ne s'éclata. « Faibles gens, dit le père, il faut que je vous montre ce que ma force peut en semblable rencontre. » On crut qu'il se moquait. On sourit, mais à tort. Il sépare les dards et le rompt sans effort. « Vous voyez, reprit-il, l'effet de la concorde. » Soyez joints, mes enfants, que l'amour vous accorde. Tant que dura son mal, il n'eut autre discours. Enfin, se sentant prêt de terminer ses jours, « Mes chers enfants, dit-il, je vais où sont nos pères. Adieu, promettez-moi de vivre comme frère, que j'obtienne de vous cette grâce en mourant. » Chacun de ses trois fils l'en assure en pleurant. Il prend à tous les mains. Il meurt. Et les trois frères trouvent un bien fort grand, mais fort mêlé d'affaires. Un créancier saisi, un voisin fait procès. D'abord, notre trio sentirent avec succès. Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare. Le sang les avait joints, l'intérêt les sépare. L'ambition, l'envie, avec les consultants, dans la succession entre en même temps. On en vient, on partage, on conteste, on chicane. Le juge, sur 100 points tour à tour, les condamne. Créanciers et voisins reviennent aussitôt. Ceux-là sur une erreur, ceux-ci sur un défaut. Les frères désunis sont tous d'avis contraire. L'un veut s'accommoder, l'autre n'en veut rien faire. Tous perdirent leurs biens et voulurent, trop tard, profiter de ces dards unis et pris à part.